Ça fait un petit bout de temps que tu portes le roman.
Et une vingtaine d'années ouais, que j'ai commencé à penser à une idée du chronique sur la guerre d'Algérie. Bon, face à l'ampleur du projet, j'ai un peu traîné. Disons qu'il y a, en gros, il y a eu trois périodes. Il y a eu la période où j'y ai pensé, mais en faisant des trucs. C'est-à-dire que les fiches de groupe, par exemple, la plupart, bon, il n'y en a pas beaucoup, il y en a quatre, et la plupart ont été faites il y a 15 ans. Les morceaux de musique, on en a fait 3-4 dans les années 90, puis 2-3 depuis. Et puis il y a eu la période d'écriture qui a commencé, enfin pas d'écriture, la période de conceptualisation plus serrée qui a commencé quand la Talente m'a fait le contrat, c'est-à-dire à la rentrée 2006. Et il y a eu la période d'écriture qui a commencé en gros en octobre 2009. Donc j'ai bossé un peu moins d'un an et demi dessus, vraiment à fond, quoi.
Qu'est-ce qui a été le déclic? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire une uchronie particulièrement sur l'Algérie?
Parce que personne ne l'avait fait, tiens. Et puis plus le temps passait, et puis je continuais à avoir des uchroniques qui paraissaient sur la Deuxième Guerre mondiale, Waterloo, la guerre de sécession, enfin que des trucs faciles, quoi. Je me disais, putain, mais quelqu'un vient faire un truc sur l'Algérie? Non, toujours pas, toujours pas. Alors si, il y a eu un truc confidentiel qui, d'après Éric Henriet, est totalement nul, où l'OAS gagne la guerre, enfin bon, un truc, une merde, quoi. Comme personne se décidait, et puis il y a plein de gens, ils m'ont dit, ouais, mais de toute façon, il n'y a que toi qui peux faire ça. À force, j'ai fini par y croire. Et puis bon, j'étais quand même motivé, mais c'était dur parce que c'était un gros boulot. Il y a tout, quand même passé. Ben, je veux dire, avant, mon dernier bouquin était paru en 2006, donc ça fait 5 ans. Et depuis, à partir du moment où j'ai eu le contrat, j'ai promis à Mireille Rivalan que j'écrirai rien d'autre. Enfin, si, j'ai dû faire une nouvelle ou deux, mais c'est tout. Parce que bon, c'était ça qu'il fallait que je fasse, il fallait que je m'y oblige. En fait, c'est pas tellement pour les sous qu'ils m'ont fait le contrat, c'est pour me. Pas pour que moi, j'ai insisté pour m'obliger à écrire le bouquin, sinon j'aurais encore retardé. Et tu vois, en 2024, je m'y serais toujours pas mis, quoi. Voilà, et bon, la période d'écriture intense, ça a quand même été fatigant, honnêtement.
Parce que pourquoi? Grosse documentation et historique?
La documentation pose pas un tel problème que ça, parce que bon, une partie de la doc, je l'avais déjà dans la tête, vu que je suis né à Alger, tout ça. Bon, et puis non, mais j'ai commencé à vraiment me documenter sérieusement à partir de 97-98. C'est là que j'ai réalisé au milieu de quelle horreur j'étais né, quoi. Tu vois, c'est parce qu'avant, bon, je connaissais un certain nombre de trucs, mais pas tous les détails. Et bon, il y a certains détails quand même qui sont franchement gerbants, quoi. Tous les machins sur la torture et tout, et pas seulement la torture, quoi. Mais je veux dire là. Moi, je connaissais pas mal d'histoires vraiment épouvantables de ce qu'avaient fait les Fellegas. J'en connaissais un peu de ce qu'avait fait l'armée française quand j'ai vu ce qu'avait fait l'armée française et l'OAS. Et j'ai aussi appris des trucs de ce qu'avait fait le FLN et tout ça. Je me suis dit, putain, mais c'est...
La guerre d'Algérie, c'est plusieurs guerres civiles qui se mélangent. FLN contre MNA, notamment en France, où le FLN réussit à éliminer totalement le MNA, qui était quand même un mouvement indépendantiste plus historique qu'eux. Puis bon, après, tu as eu l'armée française contre l'OAS aussi, et puis OAS contre FLN. Et puis enfin, en gros, ça se... Si on considère qu'il y avait globalement deux camps, les gens qui étaient pour et les gens qui étaient contre l'indépendance de l'Algérie, les camps évoluent, l'importance des camps évolue, les camps se divisent et tout le monde s'entretue joyeusement, quoi. C'est épouvantable. La doc, elle n'était pas si difficile à absorber. Ce qui était difficile à absorber, c'était la charge émotionnelle qu'elle est avec, quoi. Parce qu'en France, j'ai l'impression que la plupart des gens ne savent pas et ne se rendent pas compte de ce que ça a été. Et en Algérie, les versions de l'histoire officielle c'est apparemment n'importe quoi. Comme tomber sur des gens qui me prétendaient qu'il y avait un système d'apartheid. Non. Non. Effectivement, les populations ne se mélangeaient pas, mais parce que les mariages entre musulmans et européens, c'était un truc difficile, pour des raisons religieuses et pour tout un tas de trucs. Il ne faut pas oublier aussi que la plupart des Algériens, donc. Disons des Algériens de souche africaine, donc ils sont essentiellement des berbères. Quelle que soit la langue qu'ils parlent, c'est essentiellement des berbères. Il reste très peu de traces génétiques des Arabes et aucune des Turcs. Enfin, donc les berbères avaient pour la plupart un statut de sujet français et non de citoyen. On les envoyait se faire tuer sur les champs de bataille en 14-18, en 39-45. On a vu le film Indigène et tout ça. Mais ces mecs-là étaient pour la plupart pas citoyens. Et quand on a fait un grand geste après la guerre, oui, on a donné la nationalité française à 60 000 musulmans. Ouais. Après, on peut vraiment discuter pendant très très longtemps. Et d'ailleurs, plein de gens s'en sont pas privés. Par exemple, oui, mais on pouvait pas donner. Des gens diront qu'on pouvait pas donner le statut, on pouvait pas donner la citoyenneté française à des gens qui refusaient les lois françaises et qui voulaient être jugés selon la loi islamique, par exemple. Oui, on pouvait aussi décider que la loi française s'appliquait partout sur le territoire de la République à tout le monde. Enfin, je dis pas que c'était la solution. Ce que je veux dire, c'est que il y avait très certainement des solutions plus justes, peu importe qu'elles se terminent par l'indépendance de l'Algérie ou par autre chose. C'est pas ça la question. La question, c'était qu'il y avait des gens qui étaient quand même maintenus dans un état de sujétion à cause de leur religion et, il faut le dire aussi, à cause de leur origine ethnique. Et puis merde, voilà quoi.
Juste une question, c'est une période donc à la fois très difficile, très trouble et très riche d'événements et d'éléments. Pourquoi avoir choisi de faire une uchronie et pas simplement, par exemple, un roman historique? Qu'est-ce qu'a apporté l'uchronie dans ton idée principale?
Bah, un roman historique, moi, ça m'intéressait pas parce que comment dire? Je pense que l'histoire de la guerre d'Algérie reste à écrire des deux côtés de la Méditerranée. Parce qu'il n'y a aucun consensus. T'as encore des gens qui sont persuadés aujourd'hui que l'armée française ou l'OAS aurait pu gagner et que l'Algérie serait toujours française. Tu vois, et puis il y avait la solution de la partition, bon, qui est celle que j'ai choisie. Quand t'as grandi avec, pas l'idée, mais enfin en pensant que l'Algérie aurait dû rester française parce que t'es gamin et que tu sais pas, et que quand tu commences à avoir une conscience politique et que tu te rends compte que l'indépendance était inéluctable, je pense que ça t'amène à écrire une uchronie justement.
Est-ce que tu peux nous expliquer, tu parlais de la partition, alors pour les gens qui nous écoutent et qui l'ont pas encore lu, ce que c'est la partition, et puis parler après du cas spécifique d'Alger, justement ce que tu as choisi, un cadre bien précis.
Bon, la partition, c'est simple, c'était une solution qui avait été proposée, mais je pense pas qu'il y ait grand monde qui l'ait prise sérieusement. La partition, l'idée, bon, bah, c'était on aurait créé des enclaves, Alger, Oran, éventuellement Beaune, et où la population française aurait, enfin, d'origine européenne, aurait été regroupée, et le reste de l'Algérie serait devenu un État indépendant. Voilà.
C'est ce qui se passe dans ton roman.
Voilà, c'est ce qui se passe dans mon roman avec quelques détails, quelques aménagements. Et bon, il y avait aussi un autre truc, c'est que l'idée de Timothy Leary qui débarque à Biarritz en 1964 et que un genre de Summer of Love se passe à Biarritz, c'est quand même vachement excitant, quoi, parce que c'est pas seulement l'histoire de l'Algérie que j'avais envie de réécrire, c'était aussi, enfin, de réécrire. J'ai envie de faire une uchronie sur les années 60 aussi. Alors j'aurais pu la situer aux États-Unis, mais à San Francisco. Mais j'ai jamais mis les pieds là-bas, moi. Puis même, de toute manière, alors que l'Algérie, j'ai quand même, j'ai un lien émotionnel, et j'ai aussi des souvenirs, et puis une bonne connaissance. Et puis bon, il restait plus qu'à régler quelques détails. C'est-à-dire, en gros, à ramener les Vautriens, donc l'équivalent français des hippies, dans la casbah d'Alger. Et là, on obtient quelque chose qui, je dirais, est intellectuellement très excitant et esthétiquement super sympa, quoi.
Le statut d'Alger, qui est un petit peu particulier dans ton livre.
C'est pas seulement une enclave.
Ah bah, c'est une enclave, jusqu'en 1977, où il se passe un certain nombre d'événements que je n'ai pas envie de dévoiler parce qu'il faut que le lecteur achète le livre, mais les événements qui se passent pendant une nuit bien précise de 1977 sont au cœur du livre, sont aussi au cœur de la thématique politique. Parce que bon, c'était pas possible de faire un bouquin pas politique, donc, mais c'est un livre qui est politique au sens premier du terme. pas au sens politicien et pas au sens engagé. Je ne pense pas avoir fait un livre engagé. D'ailleurs, je ne sais plus qui me disait que ce qui était bien, c'était qu'on voyait passer des gens, parce qu'il y a plein de narrateurs, et on voyait passer des gens de tous les bords, en fait. Il y a même des fachos. C'est ça qui était un peu difficile, c'est d'arriver à se mettre à la place de plein de gens qui ne pensent pas du tout comme moi. Et il y a des gens de tous les, je dirais, de tous les camps, de toutes les langues, de toutes les ethnies. Plein de petites histoires qui font la grande histoire, je crois, dit quelqu'un.
Alors justement, sur la structure, tu as plein de points de divergence avec notre histoire. Comment est-ce que ça s'est construit? Est-ce que tu avais tous tes points de divergence dès le départ, ou est-ce qu'ils se sont imposés au fur et à mesure du scénario? On ne va pas tous les citer, mais effectivement, on a...
Moi, je considère qu'il y a une demi-douzaine, en gros, de points de divergence principaux qui ne sont pas liés forcément par une causalité. Je les avais tous. Oui, pas dès le départ. Quand j'ai commencé à vraiment me lancer dans l'écriture, je les avais tous. Alors après, je sais pas. La mort du général, c'était évident. C'était évident, je veux dire. Tu veux faire une uchronie sur la guerre d'Algérie, tu te débarrasses d'abord de De Gaulle, quoi. Ça, c'est clair. Les autres étaient... ce qui se passe en Hongrie en 1956, le fait que ce ne soit pas la même chose qui se passe à Budapest... le fait que l'expédition de Suez ne réussisse, disons. Alors après, dans notre monde, elle a réussi, mais les Français, les Anglais et les Israéliens ont été obligés de se barrer ça réussit. Tu vois, il y a une inversion du truc, par exemple. C'est-à-dire que je ne sais pas si c'est l'expédition de Suez si c'est à l'expédition de Suez ou à Budapest que j'ai pensé en premier, mais ce qui est clair, c'est que si la Hongrie se libère du bloc de l'Est en 1956, au niveau international, ça masque ce qui se passe à Suez. Alors qu'en France, les Russes ont pu envoyer... en France, dans notre monde, les Russes ont pu envoyer les chars à Budapest parce que tout le monde était occupé à regarder ce qui se passait à Suez. Juste, tu vois, donc ces deux-là sont liés. Après, il y en a une qui se passe un peu avant. Bon, il y a un point de divergence. Il y en a même un autre, mais celui-là, j'en parle pas, parce qu'il faut le trouver. Il y a un point de divergence que personne n'a encore trouvé, qui est tout petit, et je pense qu'on paiera le resto à la personne qui le trouvera. Mais amusez-vous, hein. Donc avant, il y en avait un autre avant qui était un peu prévu. Enfin bon, tu vois, mais... je voulais pas faire une uchronie habituelle avec un seul point de divergence qu'on décline. Je voulais pas faire une uchronie causale. Quelqu'un m'a demandé si c'était une uchronie quantique. J'ai répondu plus ou moins. Parce que c'est un peu ça, en fait. Une uchronie, ça commence quand? Une divergence, ça commence quand? Ça commence quand t'as un électron qui quitte une couche autour d'un atome et qui va vers un autre atome, alors que dans l'un des mondes, ça arrive, et dans l'autre monde, ça arrive pas. Là, déjà, t'as le départ de l'uchronie. Donc, voilà. Et puis, bon, il y a une vision de l'histoire, il y a une vision de la géopolitique des 50 dernières années, ça, c'est très clair. Une des choses qui est peut-être pas évidente quand on lit le livre, mais c'est quand même un monde où le, entre guillemets, retour vers le religieux auquel on a assisté depuis quelques années ne s'est pas passé. C'est un monde où a priori, il n'y a pas de terrorisme islamique. C'est pas pareil. Mais c'est pas forcément lié à ce qui s'est passé en Algérie. Tu vois, mais à partir du moment où le monde commence à diverger, il y a des effets qui sont directs, causaux, et puis il y a des effets qui peuvent être considérés comme quantiques ou synchroniques. Mais ça ne veut pas dire non plus que j'ai fait n'importe quoi et que je me suis amusé comme un fou en réfléchissant pas du tout et en mettant juste ce qui me plaisait. J'ai vraiment essayé de construire quelque chose qui tienne complètement debout, mais avec plusieurs points de départ, effectivement, plusieurs divergences.
Et alors la partie rock musicale, entre guillemets, qu'est-ce qu'est le... je le sais, pour te connaître un petit peu, que c'est quelque chose qui est important pour toi. Quelle est la part d'imagination? Quelle est la part de créativité? Et puis, tu avais vraiment envie d'écrire là-dessus? C'est une période particulière?
Attends, l'histoire du rock'n'roll, c'est génial, quoi. S'amuser à la refaire. En plus, créer une histoire du rock'n'roll qui commence... Vos gueules, les rappeurs. Une histoire du rock'n'roll qui commence beaucoup plus tôt en France et où finalement le rock finit par acquérir très très vite un côté sulfureux mais qui est lié à la politique et avec le mouvement psyché, enfin plus exactement psychodélique dans ce roman. Écrire une histoire parallèle du rock, c'est excitant, quoi. plus qu'excitant, c'est jouissif.
Donc c'est un roman qui a eu besoin de maturer pendant plusieurs années. Voilà. Il est sorti, les premières critiques arrivent, il y a les premières dédicaces. Comment est-ce que toi tu le regardes? Est-ce que c'est peut-être ton roman le plus personnel, celui sans doute sur lequel tu t'es le plus investi?
Je ne sais pas en fait, parce que moi je considère que quasiment tous mes romans sont personnels, très personnels. Je ne sais pas si celui-là est plus personnel que les autres. Il est peut-être plus lié à mon histoire personnelle, oui. Mais sinon, finalement, tu sais, c'est un peu... Souvent, les écrivains, ils ont tendance à avoir une certaine palette de thèmes qu'ils aiment bien traiter. Je crois que dans ce bouquin, j'ai réuni à peu près tous les thèmes que j'aime bien traiter, sauf celui de l'extraterrestre. Voilà. Je crois qu'il y a tout. Il y a du sexe, de la drogue, du rock'n'roll, de la politique. Il y a des hippies, enfin des vautriens, pardon. Et il y a une réflexion sur ce que c'est que nous. Parce que nous, c'est un mot qu'ils n'arrêtent pas d'employer, forcément, mais le nous n'est jamais le même. Et si je est un autre, nous, c'est pas les autres. Et nous, ça change tout le temps. Là, on est tous les deux en train de discuter et de faire l'interview. Ben, nous, c'est nous deux, quoi. Mais on peut, le nous, ça peut être nous, tous les gens qui sont dans ce parc, ou nous, tous les gens qui sont sous la bulle, là-bas. Et donc, nous, ça change tout le temps. Et c'est aussi un bouquin sur l'auto-organisation collective, sur la manière dont des gens qui se connaissent pas forcément, qui n'ont pas forcément les mêmes idées ni les mêmes aspirations, finissent en fait par faire des trucs ensemble et par s'associer parce que à ce moment-là c'est ça qu'il faut faire et il n'y a pas quelqu'un qui est là en train de leur dire « Ralliez-vous à mon panache blanc, suivez ma main tendue ». Non, non, tu vois, c'est l'auto-organisation. Comment des mouvements de changement peuvent naître de manière quasi naturelle dans des groupes de population. Et bon, ça m'a quand même fait bizarre parce que j'étais en train de terminer ce bouquin, mais vraiment de terminer, j'étais dans le dernier chapitre, quand ça a commencé à bouger en Tunisie, et puis en Égypte, et puis en Libye, enfin, tu vois, et... Peut-être que sur tous ces trucs, il y en a qui, à terme, vont quand même réussir et apporter une vie meilleure. Et pour moi, c'était un peu une confirmation de l'idée que les gens sont capables de s'auto-organiser et qu'ils n'ont pas besoin de suivre un chef et qu'ils n'ont pas besoin d'avoir une doctrine politique pour s'organiser ensemble et faire ce qui est nécessaire au moment où c'est nécessaire de le faire.
Et quel regard tu portes sur ce bouquin après plusieurs années d'écriture? Il est enfin sorti.
Attends, je suis content d'avoir fini. Ah, je vais pouvoir passer à autre chose. Parce que, au bout d'un moment, non, ça va être... Je suis quelqu'un qui est habitué à prendre du plaisir quand j'écris, et là, il y avait des moments où c'était pas du plaisir parce que c'était dur à faire. C'était douloureux, quoi. Il y a des trucs qui étaient douloureux. Et puis, il y a quand même, même si c'est pas un bouquin gore, il y a quand même quelques scènes qui sont dures, quoi. Enfin, on n'est pas chez les bisounours, hein, ça. Et puis le contexte, je dirais, actuellement il y a peu de SF qui est publié. Quand tu écris un bouquin de SF, de fiction spéculative, vraiment chiadé, qui pour moi est vraiment pointu, et en plus sur un sujet qui est difficile, voir passer autour de toi tout un tas d'articles et de gens qui dénigrent la SF ou qui disent que la SF ça n'a aucun intérêt, on peut plus rien faire avec, que c'est mort et que maintenant l'avenir c'est la bitlite, tu vois. Bon, ça, quelque part, ça demande. Moi, j'ai été habitué aussi à écrire dans un contexte où écrire de la SF, c'était valorisé et valorisant, tu vois, par le milieu lui-même. Or, aujourd'hui, on se retrouve avec une partie du milieu qui, au contraire, pour qui c'est pas du tout valorisant, et pour tout un tas de raisons, tu vois. Bon, moi, j'écris pas pour ça. Mais quand l'ambiance est morose, ben, c'est moins facile. Et puis, quand tout essayer de ne pas suivre les phénomènes de mode. Donc là, je suis content parce que je suis vraiment... là, le bouquin, il paraît un moment où... oui, l'Uchronie est un peu à la mode. Ah non. C'est une branche. Je crois que c'était un pigeon. Ouais, là, l'Uchronie est un peu à la mode, mais pas tant que ça, finalement. C'est une petite mode, quoi. Et la fiction spéculative, pas du tout. Donc, je suis bien content de l'avoir fait. De toute façon, il fallait que je le fasse. Hein. À un moment, il y a l'un des personnages qui, à la base, n'est pas du tout sensible à la notion de devoir, se retrouve à faire quelque chose et finit par se dire que ce qu'il est en train de faire, c'est peut-être son devoir. Peut-être que pour la première fois de ma vie, j'ai conscience, ou en tout cas l'impression d'avoir fait mon devoir en écrivant ce bouquin, parce que comme je te l'ai dit, quand même un certain nombre de gens qui m'ont dit qu'avec moi, qu'ils pouvaient faire un truc pareil, et à partir de ce moment-là, j'étais obligé, quoi. Et le devoir, c'est un peu ça, t'es obligé de le faire parce que si tu le fais pas, personne d'autre le fera. Bon, maintenant que j'ai fait ça, je peux repartir sur des choses beaucoup plus sympathiques. Enfin, quand je dis sympathiques, pour réécrire des histoires avec des extraterrestres et des transparents et des intelligences artificielles qui se planquent dans les murs. Et là, le bouquin est totalement réaliste. Il n'y a pas un élément science-fictif. Il n'y a pas de télépathe, il n'y a pas de monstre lovecraftien. Le roman est totalement réaliste. C'est un pur roman de littérature générale. Sauf qu'il se passe dans une Algérie uchronique et que je pense que pour arriver à faire ça, fallait savoir écrire de la SF, quoi. Et que, il y a plusieurs manières de faire de l'Uchronie et j'ai vraiment essayé, dans la mesure de mes possibilités, de pousser cette manière-là, celle qui vient de la science-fiction, le plus loin possible. Après, je ne sais pas si j'ai réussi, mais en tout cas, les lecteurs sont contents, c'est déjà bien.
Et justement, sur les projets ?
Là, je prévois justement de raconter, de faire un space opéra entièrement raconté par un extraterrestre résolument non humain. Pour l'instant, c'est tout ce que j'ai comme projet. Après, je vais voir, quoi. Mais je voulais faire un truc vraiment radicalement différent et puis un truc sympa, parce que là, j'en ai un peu marre. J'en ai un peu marre des barbouzes, des assassinats, des attentats et tout ce genre de trucs, quoi. Des fanatiques et des... Non, là, j'ai envie de me réamuser un peu et puis après je verrai. Mais tu sais, quand on a terminé un bouquin comme ça, le plus important c'est pas les projets, hein, le plus important c'est d'en avoir fini avec un énorme travail et voilà quoi.